9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, quel plaisir de vous retrouver. On va parler de santé et vous allez le voir ce matin, le lait, c'est bon pour la santé. Alors si le docteur de labo m'écoute, il va me tirer les oreilles, mais on va parler du lait maternel avec mon invitée. Elle s'appelle Carole Hervé, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec beaucoup de plaisir, vous êtes consultante en lactation IBCLC. Donc c'est une certification, hein, c'est l'Association internationale des consultants en lactation. En quoi consiste cette certification ?
Eh bien, en effet, c'est une certification internationale. Il faut aujourd'hui être professionnel de santé pour devenir IBCLC, justifié de 1000 heures de pratique clinique en allaitement, à peu près 90 heures de formation en lactation humaine, une poignée d'heures en communication aussi pour pouvoir soutenir intelligemment les mamans qui allaitent leur bébé. Et cette certification, on l'obtient pour 5 ans. Donc tous les 5 ans, il faut recertifier notre diplôme.
Vous avez été recertifié récemment.
Oui, voilà, je suis certifiée 3 fois.
Formé à l'approche Colson. Alors l'approche Colson, pour tous ceux qui nous écoutent.
Alors, c'est le Biological Nurturing. Donc une dame qui s'appelle Suzanne Colson, qui est une sage-femme américaine, a fait un diplôme de sage-femme en Angleterre. Et dans le cours de ses études, elle avait... En fait, c'est une dame qui a énormément travaillé avec le pape de l'accouchement physiologique, pardon, je bafouille, qui s'appelle Michel Audan, qui a démontré que les femmes... qu'on n'a pas besoin d'un médecin pour accoucher. C'est les femmes qui peuvent accoucher elles-mêmes. Et elle a dit, mais finalement, on n'a pas besoin d'une sage-femme pour allaiter, les mamans savent faire naturellement. Et donc, dans le cadre de son étude, elle a observé les mamans et elle s'est rendue compte qu'il y avait toute une succession de gestes réflexes entre la maman et le bébé. Et c'est vraiment admirable, pour peu qu'on soit là pour leur donner confiance. Et c'est extraordinaire à utiliser, à mettre en place.
Et vous êtes également membre du groupe de travail allaitement du réseau de santé périnatale parisien, qui est à l'origine de la permanence SOS allaitement. Et vous êtes là pour nous parler de votre deuxième livre qui s'appelle « Choisir d'allaiter chez First ». C'est fou ce qu'il y a comme idée erronée qui circule sur l'allaitement. Moi, j'ai lu un truc, par exemple, mais ça fait des années que je l'entends, c'est que finalement, il n'y a pas d'aliments interdits quand on allaite.
Exactement, exactement.
Alors que j'ai toujours entendu dire, oui, si vous allaitez, il faut éviter certains...
Le chou, la tomate, l'ail, les oignons, qu'est-ce qu'on dit récemment, les boissons gazeuses, ça m'a toujours fait rire, j'attends de voir du lait gazeux. En effet, quand une maman allaite, elle va manger des aliments de toutes les couleurs, ça veut dire qu'il y aura des fruits, des légumes, des protéines, des acides gras. Et parfois...
Mais ça n'a pas d'influence sur le goût ?
Bien sûr que ça a une influence sur le goût, c'est extraordinaire. Une maman qui allaite et qui mange une banane, par exemple, au bout d'une heure, son lait va avoir le goût de la banane. Si elle mange du chocolat, son lait sera aromatisé. D'ailleurs, l'une des mamans qui m'a donné envie d'allaiter, c'est une de mes cousines qui allaitait sa petite Nawel. Et puis, Nawel tête, se retire du sein, la regarde et se jette sur le sein à nouveau. Et ma cousine était assez interpellée. Elle dit, c'est marrant, elle fait pas ça d'habitude. Et puis elle dit, ah oui, j'ai mangé du curry. Et elle dit, en effet, elle doit sentir le curry. Donc, j'avais vraiment été très interpellée par cette belle image. Mmh. Et puis, j'ai creusé, évidemment, hein, par mon métier, j'ai creusé cette notion. Autant le fœtus va percevoir les odeurs et les goûts de ce que mange la maman in utero, eh bien, il va aussi percevoir certaines flaveurs par le biais du lait maternel. Et puis, certaines mamans vont aussi se rendre compte que leur bébé est un petit peu incommodé, il se tortille pas mal. Et alors, forcément, on a des personnes autour qui vont dire, ah, mais c'est parce que t'as mangé du chou, peut-être que tu as mangé des navets, ou peut-être que tu as mangé des pois chiches, que sais-je. Et finalement, les mamans sont beaucoup plus futées que ça. Elles prennent un peu de recul et elles se disent, ouais, alors, qu'est-ce que j'ai mangé hier ? Alors, bon, j'ai mangé un chocolat au lait, j'ai mangé un flan pâtissier, quelque chose avec du fromage. Je vais peut-être arrêter les produits laitiers pendant quelques jours et je vais voir si ça change quelque chose chez mon bébé. C'est un peu comme ça qu'elles raisonnent. Donc, dans l'absolu, on peut manger de tout, bien sûr, mais certaines mamans vont en effet être plus prudentes sur certaines catégories d'aliments, simplement par recoupement en observant leur bébé.
Et les grimaces qu'il fait ?
Et les grimaces, alors c'est pas que les grimaces, là en l'occurrence c'est un bébé qui va se tortiller, qui pleurera beaucoup. Hein.
Ou qui va rejeter le sein peut-être ? Non ?
Les aliments, non, pas vraiment. Mais on a des bébés qui... si on incrimine certaines familles d'aliments, je viens de vous citer par exemple ceux qui contiennent des protéines de lait de vache, c'est parce que ce sont des allergènes connus et certains bébés peuvent réagir à des allergènes. J'ai des mamans dont les bébés ont réagi aux amandes. Je pense à une maman, c'est deux bouts de chou ont réagi au chocolat. Alors, le message est clair, hein, on peut manger de tout quand on allaite. J'ai pas dit qu'on mange pas de chocolat. Mais certaines mamans vont se rendre compte que leur bébé pleure beaucoup plus que d'habitude quand elles ont population consommait peut-être, je sais pas, du céleri. Mmh. Et donc
du céleri, des asperges, enfin tous les aliments qui ont une réputation d'être amers.
Pas spécialement amers. En fait, c'est d'abord les allergènes et puis en fait ceux qu'elles vont regarder. Elles vont observer. Elles vont se dire, habituellement, mon bébé peut avoir certains épisodes de pleurs. Et puis là, il pleure beaucoup plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, elles prennent un petit peu de recul et c'est là qu'elles font le test.
L'information qu'il faut retenir, c'est que si vous allaitez, vous pouvez manger de tout. Alors, deuxième information qui m'a énormément surprise quand je l'ai lue, c'est qu'une maman qui accouche d'une fille ou d'un garçon ne produit pas la même quantité de lait et le lait n'est pas de même qualité.
Alors, le lait est de même qualité, mais il y a un tout petit quelque chose dans la composition
qui change. La composition n'est pas identique, c'est pas la même.
Oui, mais la quantité de lait va être différente qu'on allait être un garçon ou une fille.
C'est la première fois que je lis ça.
Ouais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2006, l'OMS a publié des courbes de poids de référence pour tous les bébés allaités du monde sur un grand échantillon de bébés censés être représentatifs de toutes les ethnies du monde. Et à partir de là, l'OMS a publié des courbes roses pour les filles. C'est un peu caricatural. Hein.
Bon, rose pour les filles, bleu pour les garçons. En 2022,
je pense que l'OMS serait un peu plus prudent sur les couleurs, mais en l'occurrence, il y a des courbes spécifiques pour les filles, pour évaluer la bonne croissance d'une petite fille allaitée, et des courbes pour les petits garçons. C'est-à-dire que la petite fille allaitée, le premier mois, à la fin du premier mois, si l'allaitement se passe bien, elle aura pris grosso modo 800 grammes. Le petit gars, il aura pris grosso modo 1 kilo. Mmh. Et ça, c'est notre base, c'est notre minima. Donc ça nous permet aussi d'évaluer la bonne conduite de l'allaitement.
Bon, alors une consultation en lactation, ça consiste en quoi ?
Eh bien, accueillir la maman.
Je m'apprenais rien du tout.
Évidemment, bon. Donc on va permettre à la maman de s'installer confortablement, de voir comment elle se connecte à son bébé, et puis je vais procéder à un interrogatoire, qui n'est pas la partie la plus agréable, mais en fait, cet interrogatoire va me permettre de connaître son histoire, l'histoire de sa grossesse, comment s'est passé son accouchement, est-ce qu'elle a eu plusieurs enfants, est-ce qu'elle aurait peut-être perdu à un moment donné un bébé dans son parcours, et puis s'il y a des facteurs de risque d'avoir ce qu'on appelle une hypolactation primaire, donc des risques de ne pas avoir suffisamment de lait d'entrée de jeu. Je vous rassure, il y en a très très peu.
C'est une vraie question c'est la question qui d'ailleurs taraude toutes les mamans, c'est est-ce que je vais avoir assez de lait de toute façon pour nourrir mon bébé ?
Mais d'aussi loin qu'on a retrouvé des textes qui parlaient d'allaitement, les mères se sont demandé si leur sein pouvait donner suffisamment de lait pour leur bébé. Donc en effet, c'est une grande question qui nous taraude beaucoup. Donc on va poser ces questions spécifiques, on va interroger un petit peu la manière dont s'est passée la grossesse, l'accouchement, et puis après, on observe l'interaction entre la maman et le bébé. On va observer une tétée, idéalement.
Alors, une tétée, c'est quoi ?
Une tétée, c'est quoi ? C'est-à-dire ?
Mais c'est vous qui vous expliquez, qui avez un chapitre. qu'une tétée ?
Eh bien, la maman s'installe, son bébé commence à faire des petits mouvements de succion, un peu comme un petit oiseau qui cherche. Ou par exemple, on le prend dans les bras et commence à venir lécher le nez. Là, ça veut dire qu'il signale, hein, ça y est, je veux bien démarrer la tétée. La maman s'installe confortablement, elle amène son bébé, comme dit Suzanne Colson, à la bonne adresse. Donc pas sur le nombril, hein, on ne le laisse pas grimper tout seul. Mmh. On le positionne de telle sorte qu'il puisse s'accrocher confortablement au sein. Bien sûr, mon rôle, c'est de vérifier que c'est confortable, qu'il n'y a pas de tension particulière. Et c'est très, très facile à voir. C'est-à-dire que quand une maman allaite son bébé, elle a des gestes réflexes. Elle va regarder son bébé. Elle ne me regarde pas moi, elle regarde son bébé. Puis elle se met à le caresser de la même manière qu'elle caressait son ventre lorsqu'elle était enceinte. C'est vraiment extraordinaire. Puis elle vient caresser aussi au niveau de la tempe. Et en fait, Suzanne Colson a démontré que c'est l'endroit où se situe le bulbe du nerf trigémeau et ça aide le bébé à mieux téter. Donc, tout un tas de petits gestes réflexes comme ça que j'observe. Si je ne les vois pas, ça me montre à moi que la maman a peut-être mal. Ensuite, je vais observer, objectiver ce qu'on appelle le transfert de lait. Donc, c'est des gros mots, hein. C'est du jargon de consultante en lactation. Mais la maman produit du lait et on veut que le bébé le reçoive. Donc, on va être attentif et je vais amener la maman à percevoir ce que sont les alternances de succion déglutition. Donc, le bébé ouvre grand la bouche, puis on entend un petit qui est assez rythmé. Puis après, le bébé fait une petite pause, puis il recommence. Et ça veut dire que tout va bien. Je vais interpeller aussi les parents sur les repères qui montrent que l'allaitement va bien. Typiquement, un bébé qui reçoit un biberon de lait artificiel, on va regarder ce qui rentre dans le bébé. Un bébé qui reçoit du lait maternel, on regarde ce qui sort, donc les pipis, les caca. Donc quand on est maman, on est très très attentive en fait au nombre de couches et on est ravi quand il y en a 6 par jour.
Oui, ce que vous expliquez, c'est que finalement, ils seraient plus constipés, les bébés qui sont allaités, que les autres.
plus constipé.
Non, pas enfin, constipé, en tout cas, il ferait moins caca.
Alors en fait, ils font souvent plus caca, ça dépend des bébés. On s'attend à ce qu'il y ait de toute façon 6 couches bien lourdes. Et quand on parle d'une couche lourde, on s'imagine un verre à moutarde d'eau qu'on va mettre dans une couche. C'est ça le poids d'une couche. En début d'allaitement, c'est un bon critère d'évaluation de l'allaitement. Le bébé doit avoir 3 selles jaunes liquides abondantes. Quand on dit abondante, c'est pas juste une petite trace dans la couche, c'est la taille de la paume d'une main qui est couverte par une selle. Donc ça, c'est les débuts de l'allaitement. Et il arrive que certains bébés aient ce qu'on appelle des épisodes de selle peu fréquentes du bébé allaité. C'est OK si le bébé a au moins 21 jours, donc 3 semaines. Il a au moins 3 semaines, il a ses 6 couches bien lourdes d'urine, il n'est pas malade, il a des gaz, et alors ce sont plutôt mauvais. Et puis, il n'a pas d'occlusion intestinale, c'est-à-dire qu'il n'a pas le ventre dur. Il a bien ses couches lourdes d'urine, et il peut se passer 3, 4, 5 jours sans qu'il ait de sel, sans que ce soit perturbant. Et bien sûr, la prise de poids du bébé est aussi normale.
Alors quand on demande aujourd'hui aux femmes pourquoi elles allaitent, qu'est-ce qu'elles répondent ?
Pourquoi elles allaitent au départ ? Elles vont dire parce que c'est bon pour la santé, parce que ça procure à mon bébé des anticorps, parce que c'est l'aider à construire un système immunitaire solide. Ça, c'est les tout débuts. On a tendance à se rassurer en se disant mais c'est le mieux pour mon bébé, on veut tout que le mieux pour notre bébé, quoi qu'il arrive. Donc c'est souvent les premiers critères. Ça, c'est au tout début de l'allaitement. Quand on interroge une maman qui a un bébé de 3 mois, elle ne sait plus nous dire. Mais en fait, ça fait partie de sa vie. C'est quelque chose qui est empreint de... Son quotidien est empreint d'allaitement. C'est intuitif, c'est heureux. Et voilà, ça fait partie de son maternage.
Alors, quelles sont les recommandations aujourd'hui de l'OMS ?
L'OMS nous recommande que les bébés soient allaités exclusivement. Exclusivement, ça veut dire sans préparation pour nourrisson, bien entendu, mais sans adjonction d'un biberon d'eau, sans aliments solides. Ça, c'est pour les 6 premiers mois de la vie du bébé. Et par la suite, l'OMS recommande que l'enfant soit allaité au moins jusqu'à 2 ans, en plus d'un aliment solide, d'un aliment complémentaire.
Donc c'est 6 mois.
6 mois, oui.
6 mois. Et ensuite, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 24 mois. Ben, 24 mois, c'est quoi ? On considère que c'est le sevrage, 24 mois ?
Le sevrage démarre à partir du moment où l'enfant mange des aliments solides, mais il y a plein d'enfants qui seront allaités encore à 2 ans et demi, 3 ans, et c'est tout à fait OK.
Et quelles sont les recommandations santé de l'OMS ? Est-ce qu'il y en a précisément ?
Ce sont celles-là. C'est pour...
Est-ce qu'ils disent pourquoi, finalement, il faudrait...
C'est un principe de santé publique. C'est évident que les bébés aient une meilleure santé. Ils ont moins d'otite, ils ont moins d'asthme, ils ont moins de risque d'obésité, moins d'eczéma. Alors là, je parle en termes de facteurs de risque. Ce que l'on va remarquer, c'est que des bébés allaités peuvent avoir de l'asthme, de l'eczéma, des otites. Mais dans une population globale, les bébés allaités sont moins à risque de souffrir de ces maladies-là.
Allez, on parle de l'allaitement ce matin avec Carole Hervé. Je rappelle que vous êtes consultante en lactation et que vous publiez Choisir d'allaiter aux éditions First.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons d'un sujet passion ce matin jusqu'à 10h avec mon invité qui s'appelle Carole Hervé. Je rappelle, Carole, que vous êtes consultante en lactation et que vous publiez Choisir d'allaiter chez First. C'est un sujet passion parce que tout le monde a son avis sur l'allaitement et que les femmes qui ont choisi d'allaiter reçoivent un nombre d'injonctions de plein de gens bienveillants qui veulent leur bien.
Qui veulent leur bien, en effet, qui veulent décider pour elles, en fait. Fort heureusement, en 2022, on peut décider de son corps, de ce qu'on veut faire de son corps, et libre à nous d'allaiter 3 heures, 3 jours, 3 ans. On fait réellement ce qu'on veut, mais à la moindre petite inquiétude, à la moindre petite évocation d'une forme de fatigue, les mamans vont recevoir... invariablement l'injonction, mais arrête d'allaiter, donne un biberon et ça ira mieux. Et c'est vraiment terrible, en fait.
Tu
l'allaites encore, avec un encore qui ne s'arrête jamais. Ce à quoi j'encourage les mamans à répondre, c'est formidable, n'est-ce pas ? Et comme ça, hop, ça mouche la personne et on passe à autre chose.
Alors, il y a régulièrement, vous dites que finalement, toujours plusieurs fois par an, on a toujours une affaire qui défraie la chronique la semaine d'enfant. Il y a quelques jours, à Nice, une maman a été rabrouée car elle donnait le sein à sa fille à la bibliothèque municipale de Saint-Roch à Nice. Et elle a fait donc une vidéo qui a fait le buzz. En l'occurrence, que dit la loi ?
Il y, La loi dit que le bébé peut être allaité dans l'espace public. Et en fait, c'est assez flou.
Est-ce qu'il y a une législation, finalement, qui est sur l'allaitement en public?
Il n'y a pas une législation. Et justement, il y a une députée qui a envie de faire passer comme ça un acte de loi pour protéger les mamans. Aujourd'hui, la législation est très floue. Et donc, finalement, à peu près tous les 6 mois, il y a une affaire comme ça. Le sujet de l'allaitement est tellement peu connu que certaines personnes vont être choquées, mais ils ne sont pas choqués par des publicités pour de la lingerie féminine aux abribus, par exemple, mais ils vont être choqués par un bébé allaité. Donc c'est assez triste. On pourrait être triste de cette réaction, et finalement ça met le sujet en lumière. Ça va donner envie à certaines personnes peut-être de s'affirmer. Alors d'autres n'osent pas trop allaiter en public. C'est pour ça qu'il existe maintenant même des vêtements qui nous permettent d'allaiter très discrètement, ou alors peut-être des lieux de rassemblement. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Je pense à des initiatives comme le club Poussette qui commence à dire aux mamans, mais sortez aussi un peu de chez vous, regardez, on peut se réunir dans un café. Et on peut aller prendre une tisane ensemble et allaiter nos bébés et papoter. Alors ça, c'est des initiatives ponctuelles dans plein de villes de France. Hein, il va y avoir des cafés de parents ou bien des réunions de mamans bénévoles. Je pense à la Lechelique. Ça a toujours été le principe de la Lechelique. C'est organiser tous les mois des réunions pour que les mamans puissent se réunir et allaiter librement et voir que c'est possible de le faire en public.
Alors il y a des nombreux clichés hein, sur l'allaitement. Vous voulez les énumérer? Par exemple, l'allaitement long, c'est mauvais pour l'autonomie du bébé. Vrai ou faux?
Ça me fait exploser de rire en fait. Comment se pourrait-il qu'un mode d'alimentation et de maternage prive l'enfant d'autonomie? Au contraire, l'allaitement contribue à renforcer ce socle de sécurité intérieure. Bien entendu, c'est une nutrition exceptionnelle qu'il reçoit. Et une fois que le bébé a fait son plein de maman, son plein de câlins, son plein de sécurité, je vous garantis qu'il prend son envol. En tout cas, alors la sempiternelle réponse, c'est bien sûr qu'à 18 ans, il n'est pas toujours allaité. Ça, c'est une évidence. Mais il y a beaucoup de bébés qui vont se détourner naturellement du sein vers 1, 2, 3, 4 ans.
Il n'y a pas une dépendance, en fait.
Il n'y a pas de dépendance, mais non. Et on ne donne pas trop d'amour à son enfant,
jamais,
évidemment.
L'allaitement vous transformerait en tétine géante?
C'est plutôt la tétine qui a été inventée pour créer une fausse maman, tout comme les doudous, non?
Et alors ça, par contre, on l'entend souvent, l'allaitement serait mauvais pour votre couple et la libido.
Allons bon. Alors, il est vrai qu'il y a un certain climat hormonal qui suit la naissance du bébé, qui pourrait être favorisé par l'allaitement, qui amène une certaine sécheresse vaginale. Et il est vrai que avoir une sécheresse vaginale et une douleur pendant les rapports sexuels, c'est pas du tout ce qui nous donne envie de reprendre une activité sexuelle épanouie. Ceci étant, une activité sexuelle, ne se limite pas qu'à la pénétration. On peut se réinventer, on peut aussi trouver des lubrifiants, donc on peut toujours trouver des alternatives. Est-ce que l'allaitement explose le couple? Bien sûr que non. Est-ce qu'un enfant allaité empêche...
C'est qu'on parle toujours de la jalousie du papa, enfin voilà.
De là?
La jalousie du papa.
La jalousie du papa.
Alors, la maman, d'ailleurs.
Finalement, les papas ont l'impression d'être un peu à l'écart. Oui, il est vrai qu'ils ont, nos papas modernes ont envie de s'investir auprès de cette petite famille naissante. Eh bien, finalement, on va se rendre compte que quand ils s'investissent, quand ils ont leur rôle aussi de protecteur, leur rôle de valorisateur, eh bien, l'allaitement va se poursuivre très longtemps. Donc, une femme heureuse dans sa maternité, un couple qui va bien, c'est une sexualité qui va bien par la suite.
On parle souvent du rôle protecteur que joue l'allaitement, qui serait comment on appelle ça? J'ai le mot sur le bout de la langue. Un très bon contraceptif.
Ah, alors c'est intéressant comme question. Oui, l'allaitement dans un certain nombre, qui respecte un certain nombre de critères, est un facteur d'espacement des naissances. Il faut que le bébé ait moins de 6 mois, il faut qu'il soit allaité exclusivement, il ne faut pas qu'il dorme trop longtemps la nuit. Malheureusement, il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 heures d'écart
entre deux tétés.
Il ne faut pas qu'il ait une sucette dans la bouche, une tétine, et que la maman ait attendu au moins le 56. Enfin, pardon. Il faut être en dessous du 56e jour après le retour de couche. Je suis plus très sûre de cette notion-là. Mais bon, ce sont des critères qu'on appelle la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, la MAMA. Si besoin, je pourrais réécrire un article sur mon blog pour en reparler.
Non, parce qu'on en parle souvent, ça, du rôle protecteur pendant l'allaitement.
Oui,
c'est savoir finalement quel message de prudence donner aux mamans. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y en a qui se disent, de toute façon, j'allaite.
Donc,
Donc je suis tranquille pendant tout le moment de l'allaitement. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais vérifier avec vous.
Et vous faites très bien de le souligner, c'est comme ça que j'ai annoncé à une maman qui est devenue une amie, que peut-être, même si elle allaitait sa troisième, elle pourrait être encore enceinte. Elle m'a dit non. Eh bien, Zalia, si je suis moi aujourd'hui et la vie est belle, donc la petite quatrième, et pourtant la maman allaitait.
Bien, comment est-ce qu'on faisait avant l'invention du lait en poudre? Et vous, dans votre livre, vous revenez sur l'inventeur, sur les inventeurs du lait en poudre.
Eh bien, quand la maman n'avait pas suffisamment de lait, elle faisait appel à une nourrice. Étymologiquement, les nourrices étaient des femmes qui allaitaient l'enfant d'autres familles. C'est d'ailleurs malheureusement pour sauver des bébés qui étaient placés chez des nourrices que Henri Nestlé a inventé son lait artificiel. C'est-à-dire que beaucoup de familles bourgeoises dans des grandes ville, envoyait des tout petits bouts de choux qui avaient 15 jours à la campagne chez des nourrices qui allaient allaiter les bébés sous prétexte que les villes, les grosses villes, étaient insalubres. On n'avait pas le tout à l'égout, on n'avait pas la même qualité d'air et on considérait que l'air de la campagne c'était vivifiant pour les bébés. Sauf qu'il y avait un bébé sur deux qui décédait dans le parcours. Alors ça, c'était les nourrices sur site et puis finalement on a fait venir, les nourrices à la campagne, puis on a fait venir des nourrices sur site. Donc certaines familles bourgeoises recrutaient des nourrices pour allaiter les bébés chez elles. Il me semble, mais je ne suis plus sûre du chiffre, qu'aux alentours de 1900, on avait à peu près 20 000 naissances par an à Paris et 19 000 bébés n'étaient pas allaités par leur mère. C'est fou. Et donc, on avait un taux de mortalité énorme à cette époque-là. Et c'est pour ça que le lait artificiel a été créé. Mais bon, une industrie qui veut se développer, une entreprise qui veut se développer, va faire un peu de marketing. Et puis, au départ, c'était un substitut de l'allaitement et c'est devenu plutôt prépondérant dans notre culture.
Et c'est ça qu'il faut expliquer. C'est comment aujourd'hui le biberon s'est imposé comme la norme pour nourrir les petits, les tout-petits.
Par le truchement de quelques techniques de marketing agressives. Typiquement, on va lire partout ce terme qui me hérisse le poil, qui est de lait maternisé. Ça a été conçu de toutes pièces.
Alors on n'a plus le droit.
Depuis 1980.
On n'a plus le droit d'utiliser ce terme-là.
Ce terme-là. Mais lisez les articles. Là, justement, sur cette affaire d'une maman qui a été empêchée d'allaiter dans une bibliothèque, lisez les articles. Vous allez voir que les journalistes n'ont pas conscience de cette terminologie et de la justesse des mots et donc vont continuer de véhiculer lait maternisé. Quand on dit lait maternisé, inconsciemment, on fait croire qu'on a rendu maternelle une préparation pour nourrissons à base de lait de vache.
Et ce que vous expliquez, c'est que dans le lait maternelle, donc humain, il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut
impossible.
Pas faire, que la technique ne peut pas reproduire.
C'est absolument impossible. Typiquement, dans le lait maternel, on va retrouver de la gréline, de la leptine, qui sont des protéines qui régulent l'appétit. Autant vous dire que l'industrie agroalimentaire, c'est pas casser la tête à rajouter ça, puisque c'est pas un argument marketing, puis c'est assez difficile à reproduire.
Ce qui veut dire que le lait des femmes est quelque chose de tout à fait différent, qu'on ne peut pas reproduire.
En fait, il est adapté à notre progéniture, il est adapté aux petits de l'espèce humaine. Typiquement.
C'est comme si on donnait du lait de femme à un veau, quoi.
Voilà, on l'imaginerait.
Ça aurait pas plus de sens, en fait.
On l'imaginerait pas, mais l'inverse n'est pas vrai. Aujourd'hui, on considère que c'est normal. C'est fou parce qu'il y a peu de gens qui s'imaginent qu'à l'origine, c'est du lait de vache qui est fait pour un veau. Donc, un tout petit cerveau et une masse de muscles énorme et le besoin de prendre de la graisse en quelques semaines, quelques mois. Le petit de l'homme n'est pas fait comme ça. Donc, l'industrie agroalimentaire doit retravailler ce lait pour le rendre digeste. Et bon, les mamans qui donnent du lait artificiel, et j'en fais partie, je n'ai pas réussi à allaiter mon premier enfant, les mamans qui donnent du lait artificiel vont se rendre compte que leur bébé tolère moins bien.
Enfin, le but de l'émission de ce matin, c'est pas de culpabiliser celles qui le font.
On est complètement d'accord.
C'est juste pour voir comment on en est arrivé là et comment c'est devenu la norme surtout. Comment on est arrivé à construire des messages santé qui sont peut-être pas les bons messages santé.
Oui, c'est ça. Oui, culpabiliser. Et je vous le dis, par manque d'informations, j'ai moi-même raté un premier allaitement. J'en suis pas fière. Mais finalement, en me renseignant depuis, je me suis rendu compte de ce qui avait pu amener ça. Donc l'idée, c'est pas de dire que toutes les femmes doivent allaiter, c'est de leur donner la bonne information. À partir du moment où on a, si je vous dis manger trop de sucre, c'est pas bon pour la santé, je vous culpabilise pas, je vous donne une information factuelle. Si je vous dis le lait maternel est le lait adapté pour le petit de l'homme, c'est une information factuelle. On en fait ce qu'on veut derrière.
Et l'OMS, a fait une étude, dit que le lait artificiel,
c'est comme ça qu'il s'appelle.
Bon, le lait artificiel est la cinquième meilleure option pour l'alimentation des enfants. Alors, ce qui veut dire que cinquième.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en premier lieu. Qu'est-ce qu'il y a devant, en fait?
En premier lieu, le lait maternel pris au sein de la maman. Ensuite, il va y avoir le lait tiré. Ensuite, il va y avoir le lait...
Alors, le lait tiré pour tout le monde.
Le lait tiré est frais. Donc, la maman a recueilli son lait soit à la main, parce que c'est un super tire-lait les mains, soit avec un tire-lait manuel ou électrique. Donc, ça, c'est du lait fraîchement recueilli. Ensuite, il va y avoir le lait qui a été préservé au réfrigérateur ou au congélateur. Le lait d'une nourrice en bonne santé. Et puis, en dernier lieu, le lait artificiel.
Hmm. Et ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Hein. Oui. C'est l'OMS qui le dit.
Exactement.
C'est des informations... qui circule pas beaucoup, hein, qu'on n'a pas forcément.
Non, c'est sûr.
Carole Hervé, vous êtes notre invitée. C'est passionnant, votre livre est passionnant. On apprend énormément de choses sur l'allaitement. C'est pas du tout simple, mais en plus, il y a beaucoup de clichés sur l'allaitement. Alors, votre livre s'appelle Choisir d'allaiter, c'est aux éditions First, et on en parle ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Alors, on parle de l'allaitement ce matin avec mon invité Carole Hervé qui publie Choisir d'allaiter chez First. Alors, évidemment, le titre interpelle, mais choisir d'allaiter, allaiter, c'est un choix.
Oui. Oui, c'est un choix. C'est un choix personnel, c'est un choix même familial. Et donc, chaque mère est libre de décider de son corps et d'allaiter aussi longtemps qu'elle le souhaite.
Le premier lait, c'est le colostrum. Schkoun, le colostrum.
Le colostrum, c'est un concentré d'immunité. C'est le premier vaccin que reçoit le bébé à la naissance. Et d'ailleurs, certaines mamans me disent « j'ai pas allaité ». Et puis quand je creuse un petit peu, j'apprends qu'elles ont donné quelques jours de lait maternel et notamment essentiellement le colostrum. Eh bien, des études ont montré que ne serait-ce que donner du colostrum à la naissance du bébé, enfin du colostrum, pendant les premières heures, premiers jours qui suivent la naissance, va avoir un impact sur la santé cardiovasculaire et il y aura moins de risques d'hypertension à l'âge adulte pour tous les bébés qui ont reçu ce colostrum. C'est vraiment un
produit fabuleux. C'est l'or, on l'appelle ça comment?
De l'or liquide.
L'or liquide,
ouais, vraiment, il est fabuleux.
On peut le stocker à partir de quel moment?
Alors, on peut assez rapidement, pendant la grossesse, à partir du quatrième mois, il y a des mamans qui vont commencer à sentir une espèce de petite croutelle qui se crée sur le mamelon et c'est justement du colostrum. Et certaines mamans qui sont dans un contexte où il y aurait eu une grosse difficulté à allaiter le premier bébé, ou elles sont dans un contexte médical qui nous invite à la prudence, comme les mamans diabétiques, insulino-dépendantes, eh bien, pour ces mamans-là, typiquement, on va leur proposer passer la 37-38e semaine d'aménorrhée, enfin pardon, 36-37e, on va leur proposer d'essayer à la main de recueillir un peu de colostrum. Il n'y a pas de garantie qu'elles en aient, mais si elles en ont un petit peu, s'il y a un petit écoulement qu'elles réussissent à le récupérer, donc elles peuvent le récupérer peut-être dans une petite cuillère, et puis ensuite avec une petite seringue, elles l'aspirent, elles mettent, bien sûr il n'y a pas d'aiguille sur la seringue, elles mettent un petit bouchon ou elles mettent du cellofrais autour de la petite seringue, elles mettent ça au congélateur, et si toutefois à la naissance le bébé avait besoin de compléments de lait parce qu'il a du mal à démarrer, et bien on peut amener du colostrum.
Alors, vous parlez un petit peu du processus de la lactation. Vous avez une image, vous dites, on compare souvent la dynamique de l'allaitement à un commerce lié à un site de fabrication de produits. Et donc, finalement, vous dites que le lait s'adapte à la demande.
Exactement.
Donc, pour toutes les mamans qui se demandent si elles arriveront à produire suffisamment de lait, c'est automatique, on va dire.
C'est automatique. Il y a une réponse qui est assez rapide. Plus on retire du lait des seins, et plus le corps de la maman va produire. C'est d'ailleurs pour ça que des mamans qui sont sensibles aux appels aux dons des lactariums vont...
Alors, les lactariums, pour tout le monde,
très bien de le préciser. Ce sont des banques de lait. De la même manière que certaines personnes vont donner leur sang pour des personnes qui ont besoin d'une opération ou d'une transfusion sanguine, eh bien, des bébés préma ou très malades ont besoin de lait maternel pour survivre. Un bébé de préma de moins de 32 semaines d'aménorrhée ne peut pas survivre s'il n'a pas reçu de lait maternel. Mais souvent, les mamans n'ont pas assez de lait pour subvenir aux besoins de ces tout-petits. Et donc, il y a des mamans qui ont plus de lait, qui vont le donner à un établissement qui est un lactarium, qui va l'analyser, le stocker et le revendre au service de néonates. Eh bien, si une maman a envie de faire un don, d'ailleurs, les lactariums sont très souvent sensibles, enfin, font souvent des appels aux dons en France.
Il y a eu une crise il n'y a pas très longtemps.
Ah oui, après le Covid, oui, ça a été assez sévère.
Donc, qui était très sévère.
Hein. Bah, assez régulièrement. Hein. On fait des appels aux dons et c'est toujours bien qu'il y ait un peu d'avance. La maman allaitante, elle pourvoit aux besoins de son bébé, mais elle peut très bien rajouter ce qu'on appelle des tétées fictives. Eh bien, allez, hop, mon bébé a l'habitude de téter à 9h, il a l'habitude de retéter à 11h. Allez, à 10h, je fais un coup de tire-lait et comme ça, je vais obliger mon corps à produire davantage.
Qu'est-ce que vous appelez la nuit de la Java?
Ça, c'est une nuit fort sympathique, qui n'est pas du tout sympathique à vivre pour les mamans. C'est la transition générale J2, J3, qui amène notre bébé à réclamer le sein à peu près toutes les demi-heures. C'est assez fatigant. C'est le moment où le colostrum passe au lait de transition, c'est-à-dire que le bébé a goûté à du lait et maintenant il en veut plus, il veut plus de sucre.
Donc, on appelle ça
La nuit de la Java. Et c'est génial si on
a lactose, non, c'est du sucre ou du lactose d'ailleurs.
C'est du lactose, oui.
Le lactose est un sucre. J'ai appris grâce au docteur Alouche que tout ce qui terminait par ose, c'était des sucres.
Disons que c'est le principal sucre du lait. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi du galactose. Bref, on va faire de la science ce matin.
C'est bien. Je suis sûr. Alors là, franchement, on se couchera moins con ce soir. Hein.
Voilà. Oui, mais bon, rajouter tous les noms des sucres, bon, c'est pas le plus intéressant. Mais la quantité de la teneur en sucre du lait, en lactose, va augmenter petit à petit et le bébé en veut plus surtout.
C'est pas parce qu'il a faim en fait le bébé, si vous expliquez, c'est parce qu'il veut plus de lactose.
Ah, bah il veut plus de lait tout court, il veut plus de quantité. Allez, c'est bon, on m'a proposé un buffet avec entrée, plat, salade, fromage, dessert, je veux tout ça et je veux un buffet de dessert. Et il a raison. Et plus le bébé va demander et plus le corps de la maman va réagir. Je pense à une maman qui avait des triplés et on lui a dit mais avec des triplés vous y arriverez pas. Elle a quand même allaité 7 mois. Donc c'est tout à fait possible.
Alors, pour tout le monde et à tous, toutes celles et tous ceux qui se posent la question, la taille des seins n'a rien à voir avec tout ça.
Oui, à une toute petite exception près, la taille des seins n'a rien à voir avec ça, sauf s'ils ont vraiment pas changé de volume pendant la grossesse, des seins qui sont vraiment tout petits, qui ont un aspect de poire vide. J'invite vraiment vos auditrices à consulter un spécialiste en allaitement si vraiment elles ont des seins qui ont un grand écart. Il y a vraiment une grande distance entre les deux. L'aréole, c'est la partie foncée autour de sur le sein. Si l'aréole est très disproportionnée par rapport au galbe du sein, ça vaut le coup de demander
autour de la tétine,
du mamelon. Oui,
du mamelon.
Ça vaut le coup de consulter pour s'assurer que la capacité d'allaitement est bien là. Et bien franche, mais pour le reste, la plupart des seins vont produire du lait à profit.
Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui ont été victimes d'un cancer du sein? Vous leur conseillez d'allaiter ou pas?
S'il y a un sein fonctionnel, bien entendu, évidemment.
Ce sont des questions qui se posent.
Elles sont très légitimes. Pendant le cours du traitement de la maladie, tant qu'il y a de la chimiothérapie, de la radiothérapie, malheureusement, ce sont des traitements qui sont incompatibles avec l'allaitement. Mais une fois que la maladie est passée, s'il reste un sein fonctionnel, mais allons-y.
Parmi les idées reçues que vous faites sauter, et ça, je l'ai entendu plein de fois, c'est est-ce que vous avez déjà vu un bébé se laisser mourir de faim?
Ça, c'est terrible.
Et moi, j'entends à des professionnels de santé qui le disent. Hein.
Oui.
Sérieux.
C'est-à-dire qu'avec beaucoup de bienveillance, les gens vont dire « Mais un bébé, ça ne se laisse pas mourir de faim. » Or, il y a des bébés qui vont se mettre en économie d'énergie. Et on n'a pas toujours la grammaire pour les lire. On n'arrive pas à les comprendre. Et ces bébés-là méritent d'être allaités, non pas quand ils sont éveillés, mais même quand ils sont en état de somnolence, parce qu'ils vont téter par réflexe. Vous parliez tout à l'heure d'un bébé qui a faim. Eh bien, en fait, les bébés n'ont pas au départ la sensation de faim et la sensation de satiété. Et pour certains, eh bien, ils têtent, mais ils ne sont pas très efficaces. Ils ont passé une heure sur le sein et on croyait qu'ils avaient pris du lait. Et en réalité, ils n'ont pas fait grand-chose parce qu'ils n'en avaient pas la force, ils n'en avaient pas la capacité. Eh bien, ces bébés, ils vont se mettre en économie d'énergie, puis ils vont attendre que ça passe.
Est-ce qu'il faut cadrer les tétés pour justement éviter, comme on le disait en début d'émission, de devenir esclave?
Eh bien, cette notion d'esclavagisme, c'est marrant comme on ne se sent pas esclave de notre grossesse. Et si on prend un peu de recul, si on se dit, mais au fait, là, quand il bouge, finalement, notre bébé, quand il bouge in utero, il peut être en train de téter et de déglutir. Et on ne lui dit pas, stop, là, il faut que tu attendes 3 heures avant de manger. Eh bien, une fois qu'il est né...
Parce que c'est une idée reçue. Hein. L'idée reçue, c'est qu'un bébé, ça doit téter toutes les 3 heures.
Ça, c'est des moyennes qui ont aidé peut-être certaines personnes, mais ça a perdu un grand nombre de personnes en parallèle. Si on fait une moyenne totale du nombre de tétés sur 24 heures... on va trouver un nombre de tétés qui va se situer entre 8 et 12. Sauf que il y a aussi beaucoup d'écarts par la suite. Il y a des bébés qui vont très très bien avec 6 tétés par 24 heures. Il y en a qui en ont besoin de 18 pour recevoir la même quantité de lait. Et plus on laisse le bébé faire spontanément, et plus lui va se réguler. On n'a pas besoin de le cadrer nous-mêmes. Il va le faire tout seul.
Donc c'est-à-dire qu'on cadrer les tétés...
Mais c'est parfait pour foirer un allaitement. Si je suis un peu crue, mais c'est vraiment ça. Dorénavant, c'est un sein par tété, c'est un sein toutes les 3 heures, s'il vous plaît, écoutez votre bon sens, écoutez votre bébé. À partir du moment où vous sentez que votre bébé commence à chercher, il fait un peu le pivert, vous savez, quand il tape un peu son petit menton contre le sein, laissez-le faire. On ne donne jamais trop le sein et on ne crée pas une mauvaise habitude. plus le bébé va téter, plus il va devenir efficace, plus de lui-même il va espacer les tétés. Par contre, je suis incapable de dire quand.
Mais est-ce qu'il y a un truc pour savoir si on a donné la bonne quantité ?
Oui, on mesure les couches.
D'accord, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous réécouterez le début de l'émission. Alors, plus on boit, plus on a de lait ?
Non. Si on ne boit pas beaucoup, on risque une infection urinaire.
Et
si
la tisane, parce qu'il sait qu'il y a des tisanes pour la lactation. Hein.
Si on aime la tisane d'allaitement, on peut se faire plaisir. Mais
Il y a de la tisane d'allaitement ?
Oui, il existe des tisanes d'allaitement, bien sûr. On va rajouter, on va mettre dedans, allez, un petit peu de verveine, un peu de carvi, un peu d'anis étoilé, un peu de fenouil, du fenugrec. J'avais appris à prononcer le nom en arabe, la halba, parce que le fenugrec, c'est cette plante qu'on valorise énormément, typiquement au Maghreb, qu'on donne aux mamans qui viennent d'accoucher parce que ça ouvre l'appétit. On s'est rendu compte que ça a aussi des propriétés galactogènes. Ça va permettre aussi à certaines femmes de produire plus de lait. Prudence quand même avec le fenugrec. D'abord, c'est pas du tout agréable au goût, mais ça ouvre tellement l'appétit qu'on peut se retrouver avec 10 kilos de plus. C'est pas toujours agréable. Et puis, c'est pas du tout adapté pour des personnes qui sont à risque de faire de l'hypoglycémie, comme les mamans, les personnes diabétiques ou qui font de l'hypoglycémie. Donc, c'est pas parce que ce sont des plantes que c'est la voie royale. On peut tout avoir suffisamment de lait sans ingurgiter des tisanes. On se fait plaisir et on mange sainement.
Je voudrais qu'on termine sur le symptôme de la douleur.
Oui.
Comment l'interpréter et puis aussi cette question de crevasse.
Déjà se dire que c'est pas normal. Déjà se dire que la douleur c'est donc un symptôme et avoir mal c'est pas normal. Notre société continue de dire que c'est un passage obligé que d'avoir mal en allaitant et ça c'est non, non, non et je le répète, non. Je n'ai pas toujours réussi à trouver la cause spécifique des douleurs mais souvent en modifiant la position de l'allaitement, en allant peut-être appliquer non pas un onguent gras qu'on nous vend partout fort cher qui est de la lanoline mais peut-être un peu de lait maternel ou parfois une pommade spécifique antibiotique parce qu'il y a des lésions avec des petites bactéries là-dessus, on va cesser la douleur rapidement. Certaines mamans ont mal lorsqu'elles mettent leur bébé au sein, et puis quand elles utilisent un tire-lait, elles ont pas mal. Tiens donc, ça vaudrait le coup d'aller voir un professionnel pour identifier pourquoi le bébé fait mal. Il y a des mamans qui vont avoir un engorgement, on banalise l'engorgement, et bien non, il ne faut pas le banaliser, il faut le prévenir, il faut l'anticiper, éviter sa survenue par des tétés très, 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 très fréquentes.
Et vous pensez quoi, vous, des bouts de sein en silicone ?
J'en pense du bien et du pas bien. Je pense que c'est tout à fait adapté pour des situations où les mamelons sont tellement rentrés, on parle de mamelons invaginés, que le bébé n'a pas vraiment de place pour mettre sa petite bouche et prendre le mamelon. Or, beaucoup de mamans qui ont les mamelons invaginés ont un mamelon qui ressort une fois que le bébé tète. Donc ça pourrait être indiqué dans ce cas de figure. C'est indiqué pour les bébés nés grand préma, qui ont besoin d'un fort stimulus oral pour être capable d'enclencher la succion. C'est souvent prescrit comme dans la liste de courses de la maternité, de la valise de la maternité, je ne trouve pas ça pertinent, puisque on masque en fait quelque chose. Certaines mamans vont tenir quelques heures de plus parce qu'elles ont utilisé les bouts de sein, pourquoi pas, mais gardons tout de même à l'esprit que ça crée un écran entre la maman et le bébé, et les bébés peuvent prélever beaucoup moins de lait que s'ils étaient en direct. Certaines études ont montré que les bébés pouvaient prélever jusqu'à 50% de lait en moins quand les mamans utilisent les bouts de sein. Donc utiliser les bouts de sein, ça veut dire ajouter un accessoire qui est le tire-lait. C'est pas toujours très drôle.
Bon, c'est passionnant. On a parlé de l'allaitement. On pouvait tenir une heure de plus, Carole Hervé. Je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle Choisir d'allaiter aux éditions First. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Philippe, de votre invitation.
Et très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.